With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Madame, Monsieur, nous interrompons nos programmes pour vous annoncer une terrible nouvelle qui nous concerne tous.
Ceci est un message d'alerte.
Le nombre de personnes infectées par le virus ne cesse d'augmenter.
Il est fortement recommandé à tous de rester chez soi.
En cas de forte fièvre, prenez contact immédiatement avec les services d'urgence.
C'est une Chine de plus en plus isolée du monde qui continue de se battre contre le coronavirus. Le coronavirus, tout juste reconnu comme une urgence sanitaire mondiale par l'OMS. Au moment où nous enregistrons ces mots, le nombre de décès en Chine dépasse celui de l'épidémie de SRAS. Les médecins, les scientifiques de l'Organisation mondiale de la santé et toutes les organisations chargées de la santé publique n'ont cessé de nous le dire, mois après mois. Année après année, nous sommes à deux doigts d'une pandémie mondiale ravageuse. La peste noire aurait décimé plus de la moitié de la population européenne de 1347 à 1351, soit environ 25 millions de victimes. Et si aujourd'hui nous y étions ? Par le passé, cela est déjà arrivé. Comment mettre de notre côté toutes nos chances ? Quels réflexes ? Quelles habitudes adopter ? Porter un masque, ok, mais après, que faire, comment vivre, survivre, quand l'autre est vu comme un ennemi, un danger de mort potentiel. Aujourd'hui, dans C'est pas la fin du monde, nous allons étudier les possibilités, ou plutôt vos possibilités. C'est pas la fin du monde est un podcast de survie. Dans la première partie de l'émission, nous ferons un point sur la menace. Dans la seconde, nous établirons un guide pour survivre. Avec nous par téléphone, Olivier Terrier, bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur Terrier, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans la vie et d'où vous nous parlez en ce moment même ?
Alors, moi, je vous parle en direct d'un laboratoire de recherche. Je suis chercheur CNRS et virologue de formation et je travaille au Centre international de recherche en infectiologie qui est basé à Lyon.
Qu'est-ce qu'une pandémie et quelle est la différence avec une épidémie ou même une endémie ?
Quand on parle d'endémie, c'est plutôt pour décrire une maladie qui est restreinte dans une zone géographique. Et une épidémie, c'est finalement quand une endémie se propage rapidement. Finalement, le plus haut barreau de l'échelle de ces termes, c'est le terme de pandémie. Et on parle de pandémie quand on est vraiment face à une propagation d'une nouvelle maladie à l'échelle de la planète.
Alors comment ces pandémies, elles naissent ? D'où ça part ? Est-ce que ça peut partir de n'importe où ? Est-ce que finalement, au fil des années et même des siècles, on s'est rendu compte qu'il y avait souvent un point de départ commun ?
Il y a effectivement certaines zones du globe qui peuvent être peut-être plus sujettes à l'apparition d'épidémies. Par exemple, dans le cadre des virus de la grippe, il y a une partie de l'Asie où effectivement il y a un véritable réservoir animal à partir duquel finalement naissent les épidémies de grippe saisonnières.
Comment elles se propagent par la suite ?
La propagation, généralement, de ces pathologies, c'est très souvent via des interactions entre les hommes. Ça peut être finalement une transmission via une contamination par l'air. Et ça peut se faire aussi par des contacts directs ou indirects. Le cas finalement le plus connu et qu'on connaît tous, c'est le cas de la grippe encore. Hein. C'est finalement un exemple qu'on connaît tous. Où là, la transmission de la grippe, elle se réalise par des petites gouttelettes qu'on expulse quand on tousse ou quand on éternue. Et effectivement, ces petites gouttelettes qu'on expulse quand on est malade, elles peuvent contaminer des personnes autour de nous, hein, de manière vraiment directe, hein, quand on leur tousse dessus. Et puis, quand on tousse, effectivement, bah, on va contaminer des surfaces autour de soi, des mouchoirs, la table, son bureau. Et bah, finalement, la contamination, elle peut se faire de manière indirecte des gens qui vont rentrer en contact avec ces surfaces. Donc, effectivement, ça explique toutes ces mesures qui sont souvent rappelées à la télé ou à la radio. Le fait de cacher sa bouche quand on tousse, de jeter ses mouchoirs, et puis la mesure un peu phare de se laver les mains, qui est quand même le geste le plus efficace pour lutter contre ces infections.
Beaucoup de pandémies ont tué au fil des siècles. Il y a par exemple celle de fin 1918, si je ne dis pas de bêtises, le virus H1N1, oui. Qui a plus tué que la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'est la pandémie la plus meurtrière? Est-ce que c'est un, pour vous, dans votre métier, c'est un cas d'école, j'ai envie de dire?
Alors, oui, c'est souvent décrit comme étant la pandémie la plus meurtrière. En fait, c'est la première pandémie pour laquelle on a une documentation et des sources fiables, parce qu'effectivement, en 1918, on disposait déjà de beaucoup de choses, de beaucoup d'archives, beaucoup de descriptions, et effectivement en 1918, c'est un nouveau virus de la grippe qui est apparu, pour lequel la population humaine n'avait pas d'immunité. Et donc cette fameuse grippe H1N1 de 1918, qu'on a appelée aussi grippe espagnole, et qui a tué, selon les estimations, entre 25 et 50 millions de personnes en l'espace de 2 années.
Un autre virus très connu, malheureusement, c'est la peste.
Alors la peste, c'est un des exemples historiques les plus anciens qu'on ait. C'est la fameuse peste noire, la peste bubonique, qui a sévi au Moyen-Âge, hein, au XIVe siècle. On estime, alors même si c'est très difficile de donner des chiffres très précis, mais on estime que cette peste noire, elle a décimé presque un tiers de la population européenne à l'époque. Alors effectivement, l'Europe était moins peuplée qu'aujourd'hui, mais ça représente plusieurs millions de morts. L'agent responsable, c'est une bactérie qui s'appelle Yersinia pestis, qui porte son nom en lien avec la peste. Et cette bactérie, elle a été propagée par des rongeurs. Du moins, on a longtemps cru que c'était propagé par des rongeurs, ce qui expliquait sa dissémination en Europe. Et aujourd'hui, on sait que c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'en fait, cette bactérie, elle est transmise et elle est transportée via des puces, des poux, qui infectent des rongeurs. Et ces rongeurs, eux, transportent le pathogène au sein des maisons et des familles. Donc c'est comme ça que la transmission de la peste s'est faite.
L'une des mesures dans ce cas serait d'éloigner les rats, même aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont encore porteurs de maladies? Et de maladies pandémiques, j'entends, pardon.
Oui, alors aujourd'hui, dans les villes, il y a effectivement un travail important de lutte contre les rongeurs et d'autres sources, d'autres vecteurs de maladies. De la même manière, effectivement, il y a par exemple d'importantes campagnes de démoustication dans des zones où il y a beaucoup de moustiques, notamment dans le sud de la France, parce qu'ils peuvent être aussi des vecteurs de certains pathogènes. Donc oui, effectivement, à l'échelle des grandes villes où il y a beaucoup de population, il y a tout un travail qui est fait pour lutter contre les vecteurs.
Les pandémies ont beaucoup inspiré Hollywood, comme n'importe quelle catastrophe. On a vu beaucoup de films comme Alerte ou par exemple Contagion, qui mettent en scène des pandémies. Et on a aussi vu beaucoup de films dans lesquels un virus était volé dans un laboratoire et utilisé comme une menace terroriste. Est-ce que, selon vous, ce qu'on voit au cinéma des pandémies relève plutôt du fantasme ou d'une certaine réalité, ou ça dépend des films?
Oui, je pense que ça dépend beaucoup des films. Des films comme Alerte ou Contagion, c'est des films qui ont aussi beaucoup fasciné des futurs scientifiques comme moi, hein, par exemple. Je me rappelle avoir été très marqué par le film Alerte.
Avec Dustin Hoffman, absolument, et René Rousseau.
Voilà, qui courait dans la jungle après un petit singe contaminé par quelque chose qui ressemblait à Ebola. Voilà. Donc c'est effectivement une bonne source de divertissement, mais effectivement, c'est des films anciens qui comportent quand même beaucoup d'inexactitudes et qui sont quand même plus là pour le divertissement que pour décrire une situation vraiment très précisément. Un film qui est très différent de ce point de vue-là et qui est beaucoup plus récent, c'est le film Contagion.
De Steven Soderbergh.
Qui, lui, est présente les choses de manière beaucoup plus documentaire. Ça ressemble un peu à un documentaire. Mmh. Et moi, du point de vue, on va dire, du point de vue d'un chercheur, le film parle d'un virus qui ressemble un peu à la grippe et puis à d'autres virus. Hein. C'est un virus fictif. Et la situation qui est décrite dans ce film, elle est quand même assez, elle est assez réaliste.
Un virus échappé d'un labo, par erreur, ou volé, ou qui, je sais pas, contamine le labo et ça devient hors de contrôle, est-ce que c'est possible ?
Alors, oui, en théorie, oui. Alors, un virus échappé d'un labo par erreur, sur une erreur de manipulation, aujourd'hui, ça paraît quand même très peu possible, parce qu'effectivement, les pathogènes qui sont véritablement très dangereux pour l'homme, ils sont quand même manipulés dans des conditions très 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 restrictive, où il est quand même difficile d'imaginer que le virus il puisse sortir et contaminer des gens à l'extérieur de ces enceintes, qui sont souvent des enceintes avec plusieurs couches de protection, et où il est difficile d'imaginer que le virus puisse s'échapper comme ça. Voilà.
Oui, on ne met pas une fiole dans sa poche comme ça.
C'est, ouais. Voilà, même quelqu'un effectivement, qui voudrait effectivement faire sortir, c'est difficilement imaginable. On se rend compte que finalement, le bioterroriste le plus efficace, c'est la nature qui nous entoure et c'est les virus qui peuvent émerger d'un réservoir animal, les virus qui sont présents chez des animaux qui sont consommés sur un marché aux poissons, par exemple. Mm-hmm. Là, je parle du coronavirus, et qui peuvent se mettre à franchir la barrière d'espèce et contaminer des hommes qui ensuite peuvent contaminer d'autres hommes.
Vous nous disiez qu'on le savait, il y a des virus qui se baladaient dans la nature, qui étaient présents chez certains animaux, qui pouvaient être transmis. Donc, on le sait, les pandémies arrivent et peuvent arriver. Est-ce que nos hôpitaux et notre gouvernement sont préparés en amont ?
Alors, oui, il y a clairement une préparation qui existe. Après, effectivement, on est, comme pour tout dans la vie, on n'est jamais prêt et on n'a jamais pu anticiper tous les événements. Ce système, il fonctionne bien jusqu'au moment où on arrive à un stade où, effectivement, dans le contexte d'une potentielle pandémie, où il y a tellement de gens infectés que les services de santé sont assez vite dépassés. Et c'est vrai que là, on est dans une situation qui est ultime, quoi.
Voilà, la pandémie est déclarée, comme avec le coronavirus. Moi, je suis chez moi, à Paris.
Oui.
Je n'ai aucun symptôme et je préfère ne jamais en avoir. Qu'est-ce que je peux faire ? On voit des gens aujourd'hui, dans Paris et d'ailleurs ailleurs en France, porter des masques. Est-ce que là, pour le coup, ça s'applique ?
Il n'y a pas lieu de paniquer. Alors après, pour vous qui êtes dans votre appartement, qui allez très bien et qui ne voulez pas être contaminé, effectivement, dans une situation qui serait une situation vraiment... pandémique potentielle, la première chose à faire, c'est quand même de limiter sa mise en contact avec des populations en grand nombre. Et donc éviter d'aller
au centre commercial, par exemple.
Alors, oui, ou alors aller au centre commercial, mais en prenant un certain nombre de précautions. Mais c'est vrai que le fait d'aller dans des regroupements importants de populations humaines, ça augmente le risque d'être contaminé.
Parmi ces précautions, il y a donc le port du masque, j'imagine, éviter de toucher les personnes, éviter de toucher les tissus, par exemple, si on va dans une cabine d'essayage.
Alors, les virus, parce qu'on parle souvent de virus, et on sait qu'ils sont souvent quand même pas très résistants. Ils ne persistent pas très longtemps sur les surfaces. Par exemple, quelques gouttelettes qui contiennent du virus de la grippe, le virus va rester infectieux pendant quelques heures, tout au plus. Et effectivement, après, la zone qui a été touchée par ce virus n'est plus infectieuse. Donc,
quelques heures dans un centre commercial où il y a beaucoup de passages, c'est suffisant pour contaminer déjà pas mal de monde.
Tout à fait. Alors après, il y a des gestes à faire, des choses à appliquer qui ne sont pas toujours évidentes, mais le lavage des mains réduit considérablement le risque de contamination. Et puis aussi le fait d'éviter de porter la main à sa bouche ou à son nez. On a tendance à se gratter le nez et à se toucher le visage, les cheveux, de manière inconsciente. On le fait d'ailleurs de manière inconsciente parfois plusieurs centaines de fois par jour. Et être conscient que ces gestes-là peuvent être finalement le moyen de vous contaminer efficacement. entre deux périodes de lavage de mains, essayer de limiter le fait de se toucher le nez et de se toucher les cheveux, ça peut très très fortement limiter le risque de contamination.
Est-ce qu'il y a une façon de protéger son lieu de vie, le préserver, je ne sais pas, en se... Par exemple, barricadant, je sais que dans le premier épisode de C'est pas la fin du monde, on a parlé de la menace du nucléaire et il existe des bunkers dans les jardins qui peuvent s'avérer plus ou moins efficaces. Est-ce que pour un virus, son chez-soi, il est possible de le protéger ?
Alors oui, vraiment dans une situation qui serait vraiment une situation qui est similaire à la situation où on se retrouve dans un bunker lors d'une attaque nucléaire, bah là effectivement, là on est... Il faut protéger au maximum la qualité de l'air et la qualité de l'eau. Parce qu'il y a aussi des pathogènes qui peuvent être éventuellement transmis par l'eau. Donc effectivement, c'est la seule façon de le faire, c'est d'utiliser des filtres.
D'accord.
La problématique des filtres, c'est que les pathogènes dont on parle sont véritablement petits. Mmh. On parle de pathogènes qui font quelques centaines de nanomètres. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le vraiment petit, petit, petit. Et donc les filtres qui sont efficaces pour empêcher le passage de ces pathogènes sont des filtres qui sont très coûteux, dont il est nécessaire de changer très très souvent, parce qu'effectivement, comme il filtre des toutes petites particules qui sont vraiment de l'ordre du nanomètre, et ben, c'est des filtres qui sont bouchés très rapidement, donc ça nécessite une logistique qui est extrêmement lourde et qui est quand même assez difficile d'imaginer, de mettre en place à l'échelle d'un foyer, ou d'une, on va dire, d'une zone sécurité familiale, c'est quelque chose qui peut s'envisager à l'échelle d'un bâtiment officiel ou d'une grosse structure, mais c'est d'un point de vue logistique très très difficile à imaginer à l'échelle d'un appartement parisien.
Est-ce que dans ce cas, une vie isolée à la campagne serait idéale ?
Alors oui, oui, parce que on est loin des populations, loin des masses de population, donc on limite ses contacts, et en limitant ses contacts, on fait chuter terriblement le risque de contamination, à moins, et ça revient finalement au tout début de notre entretien, à moins qu'on soit finalement dans une zone de campagne avec une maladie qui est endémique à cette campagne-là, mmh. et avec une transmission d'un pathogène qui viendrait d'un animal qu'on trouve qu'à la campagne et qui pourrait contaminer les gens. Donc oui, on est quand même beaucoup plus protégé à la campagne. En plus, on est dans un environnement plus agréable et moins pollué, mais sans plaisanter, effectivement, on limite ses contacts humains et sans pour autant vivre comme un ermite, on est quand même beaucoup plus protégé, moins susceptible d'être contaminé.
Est-ce que certains animaux sont plus propagateurs que d'autres ?
Alors, on va dire la star du moment, c'est la chauve-souris, parce que la chauve-souris est un... Alors, ça regroupe un grand nombre de chauves-souris très différentes. Hein. Il y a beaucoup de catégories de chauves-souris. Et effectivement, ces chauves-souris ont la particularité, on ne sait pas forcément exactement pourquoi, mais ont la particularité d'être porteuses de beaucoup de virus, notamment, sans que ces virus ne les affectent particulièrement. Donc elles sont vraiment des véhicules, des vecteurs de virus. Et ces chauves-souris vont manger des fruits qui sont eux-mêmes parfois mangés par d'autres animaux qui peuvent être des vecteurs intermédiaires.
J'ai une dernière question pour vous. Je m'adresse à l'expert, mais aussi aux scientifiques, mais également à l'homme. Est-ce que, selon vous, une pandémie en termes d'horreur digne de la grippe espagnole ou de la peste, peut arriver et va arriver, et si oui, de notre vivant ?
Alors, qu'on assiste à des épidémies qui prennent beaucoup d'ampleur, c'est fort probable. Après, des pandémies, c'est très difficile pour moi de l'imaginer, mais c'est possible. Hein, mais on a aujourd'hui quand même plusieurs niveaux de surveillance internationale, il y a avec l'OMS, avec les gouvernements qui ont quand même des plans pour se préparer, pour faire face à d'éventuelles épidémies qui prendraient de l'ampleur. On est aujourd'hui quand même extrêmement préparé. Et puis l'exemple qu'on a aujourd'hui du coronavirus, il est quand même rassurant. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu relayé dans les médias. Mais quelques jours, quelques semaines après que on ait eu les premiers cas décrits, même si l'information a peut-être mis du temps à nous parvenir, nous, en Europe. Les laboratoires, et mon laboratoire en fait partie, on est prêt et effectivement, on est déjà en train de travailler à trouver des solutions. Donc c'est quand même extrêmement rapide. C'est beaucoup plus rapide aujourd'hui, la réponse qu'on peut avoir face à un nouveau virus, que la réponse qu'on pouvait avoir il y a 20 ou 50 ans. Mais effectivement, je n'exclus pas que ça puisse arriver, mais on est de mieux en mieux armé.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Olivier Terrier, donc chercheur au CNRS. Merci beaucoup et à bientôt. Récapitulons, si vous le voulez bien. Il est impératif de se laver les mains. Impératif également d'éviter de se toucher la bouche ou le visage. Éternuer, si possible, dans un mouchoir et jeter ce mouchoir. Éternuer également dans votre coude plutôt que dans vos mains. Porter un masque protège, oui, à condition de le changer régulièrement. Éviter les contacts avec certains animaux ou insectes, tels que les rats, moustiques, puces, poux ou même chauves-souris. Si vous pensez avoir les symptômes, restez chez vous. Ne prenez pas le risque de contaminer les autres. Appelez le SAMU en composant le 15. En cas d'accélération de la pandémie, limitez vos contacts avec d'autres personnes et privilégiez la campagne à la ville. Et surtout, pour rester informé, en évitant les fake news, consultez les sites du CNRS, de l'INSERM ou du gouvernement. En suivant ces conseils, simples, alors peut-être aurez-vous une chance de survivre. Vous avez aimé cet épisode ? Il vous a permis de survivre ? Vous pouvez nous aider en nous donnant 5 étoiles sur iTunes ou en vous abonnant sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos proches ou, plus précisément, avec ceux qui méritent de survivre.
One, two, one, two.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.